Lundi 19 février 1996, Roche Rodesh Adar, troisième cours sur Shir HaShirim de Rav Eman, chez Monsieur et Madame Lévy, avenue Victor Hugo.
Parecha Narutza. Goutamo. Moshrini, ça vient du mot Mosher, qui veut dire entraîne-moi. Limchor, c'est attirer ou entraîne-moi. Acharecha, derrière toi. Narutza, ça vient du mot Narutz, courir. Narutza, courons. Eviani, on va essayer de traduire littéralement. Eviani, il m'a amené. Hamelech, le roi. Chadarav, Chadarav, ça vient du mot cheder, qui veut dire chez lui, à l'intérieur. Nagila, Nagila, ça veut dire nous nous réjouirons. Venismecha, on veut dire aussi nous nous réjouirons. On va voir quelle est la différence. Bach, en toi. Nazkira, nous nous rappellerons ou nous mentionnons du mot Zocher, Nazkir, le Azkir, rappeler. Dodecha, tes bienfaits. Miyaïn, motamo plus que le vin. Meisharim, c'est difficile à traduire, ça vient du mot Mishor qui veut dire droit. Meisharim, on va traduire. Selon une façon droite, Ahevucha, ils t'ont aimé. Alors on va essayer de traduire chaque proposition à part, parce que ce verset est un petit peu difficile. Moshreni acharecha nautza. Moshreni, entraîne-moi, acharecha, après toi. Narutza, courons. Rashi, il traduit le verset en disant Moshreni, Moshreni, à peine j'ai entendu que tu voulais m'attirer. C'est le peuple juif qui s'adresse à Dieu. Acharicha, après toi. Narutza, j'ai dit tout de suite, allons-y. Eviani Amelech Hadarav, le roi m'a amené en ses demeures. Il s'agit du don de la Torah au Mont Sinaï. Ça, c'est la traduction de Rashi. On va essayer de comprendre. Vous savez que au moment où le peuple juif a dû sortir d'Égypte, il ne s'agissait pas d'une délivrance seulement pour le peuple juif, mais il s'agissait d'une épreuve. C'est ça l'allusion du verset. Moshreni, il a suffi que tu viennes et que tu me dises, viens, acharecha. Tout de suite, je me suis dit, acharecha narutza, je vais lui faire confiance, je vais courir derrière lui. La difficulté de la délivrance d'Égypte, c'est la difficulté de toutes les délivrances. C'est que lorsqu'il s'agit d'une délivrance normale, quelqu'un est en prison, je le délivre. Il est objectif de concevoir que l'extérieur est bien plus, on va dire, objectivement bon et valable que l'intérieur. Mais dans les délivrances du peuple juif, on va voir que ça n'a jamais été le cas. Au moment où le peuple juif est sorti d'Égypte, ça n'est pas qu'on lui a proposé d'aller vers quelque chose de fertile, vers quelque chose qui était la fin, l'aboutissement de quelque chose. On lui a proposé le désert. en lui proposant le désert, il fallait faire confiance dans la providence, et il fallait que celui qui était en Égypte se dise que le fait de sortir et d'aller dans le désert, c'est ça sa délivrance. Ça veut dire que le peuple juif n'a pas été invité à quelque chose qui a un avenir établi, mais il a été délivré pour se construire et construire son propre avenir. Le peuple juif vient et il dit à Dieu, voilà, Moshrini, à peine j'ai entendu que tu voulais nous tirer d'Égypte, on est parti tout de suite. Vous savez qu'on est parti. Il est écrit dans la Gemara, Vachamushim alou bnei Israël, il y a 4/5 qui sont restés en Égypte, et 1/5 seulement qui a voulu sortir. Pourquoi? Parce que la perspective de mourir dans le désert, ou alors entre parenthèses de s'en sortir dans le désert, elle était plus difficile à concevoir que la vie en Égypte. Bien que le peuple juif ait été persécuté en Égypte, et bien que on leur demandait de fournir un travail immense, pour 4/5 du peuple juif, ça a été préférable qu'à une solution dont on ne voyait pas l'issue. Dans les termes dont on a déjà parlé la dernière fois, ça s'appelle la Emouna. Emouna, ça veut dire avoir confiance en. Je dis Amen, ça veut dire j'ai confiance en la personne. Lorsque le peuple juif tire un titre de gloire de ça, ça veut dire que sa relation avec Dieu, ce n'est pas une relation de j'attends tout de l'autre. Parce que si j'attends tout, alors je suis déçu parce qu'on me propose de renoncer au peu que j'ai, même si c'est pas bien, même si c'est esclave, mais finalement, il y a quelque chose. C'est pour ça qu'on voit dans la Torah que, malgré tout, le peuple juif, lorsqu'il est arrivé à la mer Rouge, et après à diverses épreuves, a dit « Zacharno et Tadaga, Asher, Achalou, Bemitzraim », finalement, au moins en Égypte, on avait quelque chose à manger. La confiance qui doit être établi entre le peuple juif et Dieu, ça n'est pas une confiance dans « voilà, Dieu va solutionner mes problèmes ». C'est la confiance dans le fait que Dieu peut me proposer un genre de vie. Alors, maintenant, on va dire, si on me propose un genre de vie, c'est que normalement, il y ait une sécurité dans ce genre de vie, il y ait un avenir dans ce genre de vie. Mais la sécurité, l'avenir, tout ce qu'on peut espérer, ça ne dépendra jamais de Dieu, ça dépendra toujours du peuple juif. C'est-à-dire qu'on se trouve dans une situation bizarre. Ce qu'on appelle chez nous la Geoula, la délivrance, ça veut dire la possibilité d'utiliser ce que Dieu me donne. Beaucoup, peu, dangereux, facile, pas facile. C'est ce que nous appelons la délivrance. Nous n'appelons pas la délivrance la solution au problème. Nous appelons la délivrance la possibilité de mener une vie telle que Dieu nous la demande. C'est pour ça que je vous demande d'aller tout de suite vers la fin du verset, parce que la fin du verset parle de la même chose. Elle reprend le début. Mesharim Aevucha. Mesharim, droit, Aevucha, c'est-à-dire le peuple juif a fait confiance à Dieu. Mesharim. Mesharim vient du mot Yachar. Yachar, tout droit. Rashi explique ici, l'amour que le peuple juif a porté à Dieu, ça n'est pas un amour akal-kalot, c'est-à-dire qui dépend des facilités ou des difficultés que Dieu présente au peuple juif. Mais c'est quelque chose de droit. Ça veut dire, et Rachid le dit ici, ce qui est écrit dans le prophète, Zachartilach Chesed Noraïch. On va essayer d'expliquer le verset. Zachartilach, Dieu dit au peuple juif, je me suis rappelé Chesed Noraïch. Chesed, c'est pratiquement le don, la bonté, Noraïr de ta jeunesse. L'Echter Acharai Bamidbar. Le fait que tu sois allé derrière moi, Bamidbar dans le désert, de Eretz, dans une terre, Lozeroua, une terre qui n'avait pas été plantée. Voilà. Ça veut dire que le début de l'histoire du peuple juif avec Dieu, ça commence comme ça. Meisharim Aibucha. Tu es venu, tu nous allais partir, on a cru. On n'est pas venu avec des exigences, on a dit nous faut ci, nous faut ça. Yasha, on est allé droit. Bon. On reviendra après sur ce mot Yasha. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mais pour l'instant, pour le sujet qui nous intéresse, on en sait assez. Parce qu'ici, il y a un problème. Vous savez que l'histoire du peuple juif est jonchée. De, on pourrait dire, des hauts faits où le peuple juif n'a jamais manqué de courage. Tout le monde connaît l'histoire d'Abraham au moment où le roi Nimrod a voulu le mettre dans la fournaise. Tout le monde connaît l'histoire du peuple juif qui était devant la mer Rouge où les tribus se sont disputées qui c'est qui va aller le premier. Après, il y a même l'histoire de Chana et de ses sept fils, avec le roi Antiochus Épiphane. Après, dans toute l'histoire de la dernière galoute, qui est la nôtre, on a vu des communautés entières refuser d'embrasser la foi chrétienne et d'être martyrisées à ce titre-là. La question qui se pose, en quoi le fait de bien vouloir sortir d'Égypte, c'est vrai pour aller vers l'inconnu, c'est quelque chose de plus d'extraordinaire que l'histoire d'Abraham Avinu. En quoi c'est plus extraordinaire que le fait qu'un enfant juif soit capable de ne pas renier sa foi, même s'il doit payer le prix de sa vie? Si on dit, ben c'est la première fois. C'est pas la première fois puisqu'il y avait Abraham. Si on dit là, il fallait dans le désert, est-ce que dans le désert c'est plus difficile que si on demande de mourir? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour que ça marque que ici le roi Salomon vienne et dise Moshreni acharecha narutza, nous l'on sommes des gens, on a eu confiance tout de suite. Mesharim aibucha, cet amour, c'est un amour droit. Rappelle Avraham Avinu. On peut rappeler d'autres choses dans le peuple juif. La réponse, elle est peut-être celle-ci. On va poser une autre question. Qui est-ce qui a fait la Brit Mila d'Avraham Avinu? Et pourtant, tous les matins, on dit dans une fila qui s'appelle Vaivarer David, on dit une phrase où on voit qu'il n'était pas tout seul. Il y a marqué « Vecharot, imo, haberit ». Mot à mot, il a coupé « imo » avec lui, « haberit », le brit. En vérité, c'est une citation du Midrash où il est écrit qu'Abraham Avinu, au moment où lui a dit qu'il fallait faire la brit mila, ses mains ont commencé à trembler. Il a eu peur. Alors c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a aidé. Comme il est dit, Vecharotimo abrit. Akadosh Baruch Hu lui a aidé à faire le brit. Là, la question est encore plus grande. Tu es capable de te jeter dans une fournaise, mais tu n'es pas capable de faire le brit. Ça ne fait pas plus mal. C'est pas plus difficile. Le renoncement, il n'est pas plus grand. Comment est-ce qu'on peut arriver à comprendre cette phrase? Pourtant, tous les matins, on le dit. Vecharotimo abrit. Dieu a dit. A dû être obligé d'aider Avraham Avinu parce qu'il avait peur de faire le brit. La différence, elle est simple. Le brit, c'est une alliance. le grand devina explique le principe de la Brit Mila. Le principe de la Brit Mila, c'est lorsqu'il y a une alliance, chacun donne à l'autre quelque chose qui lui appartient. Dieu a donné au peuple juif quelque chose qui lui appartient, c'est la Torah. C'est sa volonté. C'est une expression d'une possibilité de vivre. Pour celle et cette alliance, le peuple juif lui donne quelque chose aussi, c'est ce qu'on appelle la Brit Mila. Nous, qu'est-ce qu'on peut donner? Qu'il soit nous-mêmes. Voilà ce qui a été choisi. Ok. Ça veut dire que ça engage la personne à quelque chose. Brit, qui veut dire alliance, veut dire que on s'engage mutuellement. Si on demande à quelqu'un un sacrifie-toi pour ton idée, on demande à quelqu'un un meurt pour ton idée. Pourquoi? Parce que la vie, après avoir renoncé à tes principes, elle ne vaut plus la peine. On puisse comprendre qu'il préfère la mort que la vie. Il va se dire, ça va durer une minute, ça va durer une seconde, ça va durer ceci, ça va durer cela. Je suis devant un chemin où il n'y a pas d'issue. Donc je m'arrête. Vous savez qu'il y a des cas dans la Torah où d'après la halakha, on est obligé de renoncer à sa vie plutôt que de commettre telle et telle action. C'est compréhensible. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un renoncement. Un renoncement, autant que ce soit difficile, c'est un acte qui n'a pas de continuité. Mais si quelqu'un ne me demande pas un renoncement, il me demande un engagement. Ça veut dire que le brit, c'est que maintenant tu vas vivre en juif. Ça, c'est tout à fait autre chose. Si tu me demandes quelque chose que j'ai, et tu veux que je te le donne, même si c'est la vie, si ça vaut la peine, je le donne. Mais de demander de s'engager, ça veut dire de devenir quelque chose, de devenir quelqu'un. Ça, l'engagement, il n'est pas aussi simple. Ça veut dire que c'est beaucoup plus difficile de mener une vie entière de juif plutôt que de sacrifier sa vie pour la Torah. Sacrifier, ça veut dire que tu es arrivé au point de non-retour. Alors, tu es obligé de choisir. Mais choisir le brit, c'est pas au moment où on choisit qu'est la difficulté. C'est après. Après, pendant toute la vie, je ferai partie de ce brit. Donc moi, je ne mets pas ma mort au service de, je ne mets pas un renoncement au service de, je mets ma vie entière dans un engagement. Là, on peut comprendre qu'avant ma vie, nous, il a eu peur. À ce moment-là, le Chaotim Abri, c'est ce qui est marqué à Kadosh Baruch Hu l'a aidé. Maintenant, on va avoir une réponse sur notre question. Si Dieu avait dit au peuple juif, il faut sortir d'Égypte et il faut aller mourir dans le désert, alors, ou tu le fais ou tu ne le fais pas. Mais de nouveau, il s'agit de sacrifier quelque chose. Il s'agit de mourir. On va dire entre parenthèses, bien que ça n'est pas. Mourir d'un côté, c'est facile. Mais ici, il a demandé beaucoup plus. Il a demandé, je t'amène dans le désert, et tu dois me croire que dans le désert, tu vas arriver à t'en sortir. Au moment de la mer Rouge, le problème, c'était de penser que tu vas sauter dans la mer, et tu vas t'en sortir. Ce n'était pas tu vas tomber dans la mer, tu vas mourir. C'est le fait de s'en sortir. Ça, c'est des milliers de fois plus dur que de demander un sacrifice. Parce qu'ici, on ne demande pas, donne ta personne, tu peux penser que c'est une petite chose. C'est on te dit, engage-toi. Engage-toi dans quelque chose que tu ne perçois pas, au contraire. Et là, on va maintenant trouver une définition de ce que nous appelons la émouna, la croyance ou la certitude. La émouna, elle commence là où le raisonnement s'arrête. Moi, je ne peux pas concevoir qu'on puisse vivre dans le désert. Je ne peux pas, au moment où je vais sortir d'Égypte, je vais m'imaginer qu'il va y avoir de la manne qui va tomber du ciel, il va y avoir un puits qui va suivre le peuple juif, il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Ce n'est pas quelque chose qui est dans l'entendement humain. Donc, moi, si on me dit, est-ce que tu crois que c'est raisonnable de faire sortir un peuple de 3 millions de personnes, à peu près, pour les mettre dans le désert, est-ce que c'est intelligent? Je suis obligé de dire non, ce n'est pas intelligent, c'est bête. Mon entendement s'arrête ici. Là où s'arrête l'entendement, commence la Emouna. La Emouna, ça n'est pas quelque chose que je peux caractériser ou que je peux décrire avec une logique. La émouna, la confiance, c'est lorsque j'ai un problème. Ça, c'est ce qui a marqué ici. Moshe ni acharecha. À peine on a entendu que Moshe et Aaron sont venus, ils ont dit de venir. Narutza. On a été capable de courir. On n'a pas couru vers la mort, on n'a pas couru vers le sacrifice, on n'a pas couru vers le martyrologe. Parce que ça, c'est difficile. Mais ça n'est pas un engagement. C'est un renoncement. Ça, on sait le faire. On a couru vers un engagement. Courir vers l'engagement, ça, c'est quelque chose d'autre. Ça, c'est le sens littéral du verset. Maintenant, encore un autre sens. C'est que tant que ça concerne la vie physique, tant que ça concerne une difficulté, qui est une difficulté, on va dire, d'effort, on peut me demander des efforts, on peut me demander d'accéder à un certain stade, ça va m'en coûter. Je peux faire confiance. Pourquoi ? Parce que je peux me dire, qui suis-je moi pour ménager mes efforts ? Qu'est-ce qu'on me demande au maximum de l'effort ? Eh bien, je ne suis pas assez important pour le refuser à Dieu et pour me ménager. Viens, on s'engage. Ça, je comprends. Mais si on me demande d'appliquer des choses que je ne comprends pas, ça, c'est déjà beaucoup plus grave. Ce qui a marqué ici, Moshe ni acharecha narutza, il est écrit dans le Midrash, Moshe ni acharecha, livre-moi tout ce que la Torah demande, narutza, je cours. Ça, c'est déjà d'une autre sorte d'engagement. On va donner un exemple. La Torah vient et me dit, voilà, tu ne dois pas mélanger le lait et la viande. Je peux arriver, moi, à comprendre que dans le monde, il y a deux essences possibles. On va essayer de comprendre, même d'après la Kabbalah, qu'est-ce que ça veut dire que le lait, qu'est-ce que ça veut dire que le sang, qu'est-ce que ça veut dire que la viande. Je peux tout comprendre. Mais d'arriver à faire le lien et de comprendre que le monde devait être créé de cette façon-là, et que dans cette création, le lait et la viande ne peuvent pas se mélanger, c'est quelque chose qui restera toujours au-dessus de mon entendement. On appelle ça en hébreu « chok ». « Chok » veut dire une loi. Agma a dit pire que ça. « Chok rakakti ve'iata rachai le harer acharav. » « Chok rakakti. » J'ai coupé, j'ai scellé, j'ai décidé. Et toi, tu peux venir et me dire si j'ai raison, si j'ai tort, si tu comprends ou si tu ne comprends pas. D'un autre côté, la Torah est faite aussi de ce qu'on appelle le mishpat. Mishpat, ça veut dire ce qui tombe sous le sens, ce qui est compréhensible, ce qui est juste. Dès que je dis le mot juste, ça veut dire que c'est moi qui le justifie. Quand je dis c'est juste, ça veut dire je comprends que par rapport aux critères qui sont les miens, j'arrive à assimiler la connaissance et elle colle. C'est ce qu'on appelle la justice. C'est juste. Ça, c'est un critère d'appréciation. C'est que le mot chauffette, qui veut dire juger, c'est que c'est des mitzvot dont je peux juger moi le bien fondé. Ok. D'accord. Donc il y a deux sortes de mitzvot dans la Torah. Le chok, tu prends ou tu laisses. Le mishpat, tu comprends. D'abord, on va poser la question qui est posée dans de nombreux commentateurs. Pourquoi deux sortes de lois ? Ou tu fais tout rock, ou tu fais tout mishpat ? Première question. Deuxième question. Pour le mishpat, pourquoi est-ce que la Torah intervient ? Il y a un code d'Amourabi, il est antérieur à la Torah. Il y a aussi marqué, tu ne tueras point. Pourquoi est-ce que la Torah intervient dans le mishpat ? Le mishpat, un homme a une jugeote, et c'est à lui de définir les choses. Intervient dans le chok, n'intervient pas dans le mishpat. Et si déjà tu es intervenu dans le choc, alors pourquoi le mishpat? Et si le mishpat est nécessaire, alors pourquoi le choc est nécessaire? Le choc, vous prenez les deux lettres, vous les inversez, c'est quatre. Ou tu prends, ou tu prends. Il n'y a pas à juger. Une des réponses, elle se trouve dans le livre qui s'appelle Or HaShaz. Il répond ceci. Dans chaque mishpat, il y a un choc aussi. Tu crois que tu vas comprendre à fond, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne comprends pas à fond. Dans chaque mishpat, dans chaque chose, que toi tu juges bien ou mal, que toi tu arrives à mettre dans tes critères, c'est ton appréciation. Mais le bon Dieu se passe de cette appréciation. C'est juste défini parce que, comme tu es créé sur le même modèle, alors tu apprécies. Mais finalement, il y a du choc à l'intérieur. Et dans chaque choc, il y a du mishpat aussi à l'intérieur. Tu vas creuser le choc, tu n'arriveras pas jusqu'au bout. Mais tu comprendras qu'il y a quelque chose. On va essayer de voir dans quel sens on peut s'orienter. Il y a un midrash qui s'appelle le midrash Talpiot. Et il commence en disant ces mots-là. Shema beni Moussar Abicha. Tout le monde connaît cette phrase. Écoute mon fils, Moussar. La morale, l'enseignement, Abicha de ton père. Tishma le fimashene mar be Sinai. Écoute cela selon ce qui a été dit au Sinai. Kabed et avicha vetimecha. Tu respecteras ton père et ta mère. Ve az, et à ce moment-là, te chabed et avicha vetimecha. Tu pourras respecter ton père et ta mère. On va recommencer. Qu'est-ce qui est marqué dans le midrash? Tu vas écouter les paroles de la Torah, telles qu'elles ont été dites au Sinaï. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas y dire? Respecte ton père et ta mère. Alors tu pourras respecter ton père et ta mère. Évidemment, puisque c'est ça l'enseignement. Il est marqué dans les commentateurs du Midrash une notion qui est obligatoire pour comprendre ce genre de choses. Elle est celle-ci. Chacun comprend qu'il doit respecter son père et sa mère. Très facile à comprendre. Je leur dois la vie. Il est normal que je respecte celui qui m'a donné la possibilité d'être. Si je dois respecter mon père, et que lui doit respecter son père, il est normal que je dois respecter mon grand-père plus que mon père, puisque mon grand-père, c'est et moi et mon père qui doivent le respecter. On est d'accord? Et plus on va monter, et plus on va arriver à ceux qui ont créé ou qui sont à l'origine, jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Très bien. Ça, c'est ce que nous, on comprend. Donc, s'il y a marqué dans la Torah, Kabed et Avicha, respecte ton père, il est évident que le grand-père, je dois le respecter encore plus. Comme ça, moi, je comprendrai. Et maintenant, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est ce qui est marqué dans les paroles de la Torah. Mais la Lacha, le Moshim Sinaï, elle est, le grand-père, il n'y a pas d'obligation de le respecter d'après la Torah. C'est les Chachamim qui l'ont institué. Pourquoi? Parce que si tu ne respecteras, tu ne respectes pas ton grand-père, il va manquer dans le respect du père. Vous comprenez ce qui est écrit ici? Tu ne peux pas respecter ton père si tu ne respectes pas ton grand-père. Donc finalement, le respect du grand-père, il vient à cause du respect du père. Alors que pour nous, la notion, elle est totalement différente. Elle est de dire, mais plus tu remontes, et plus la personne, elle est créateur, et plus le monde lui doit, plus elle est importante. Non, la halakha, elle vient du contraire. Elle dit, les grands-parents, il faut le respecter absolument. Mais comprends. Le respect des grands-parents, c'est à cause du respect des parents, pas à cause du respect des grands-parents. Dans chaque mishpat, il y a un roc. Maintenant, on va comprendre le midrash. Shema beni Moussar Avicha, écoute ce que la Torah te dit. Quand tu vas lire Kabel et Avicha, si tu le fais selon ce qui a été dit au Sinaï, et pas selon ce que tu as dans ta tête, alors là, tu vas arriver à Kabel et Avicha. Mais si tu le fais selon ce que tu as dans ta tête, et pas selon ce qui a été écrit au Sinaï, bien que ce soit un mishpat, et que tu puisses juger de la chose, tu es à côté de la plaque. T'as rien compris. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Chaque mishpat contient un roc. Et bien, on va essayer de comprendre. Moi, je viens chez quelqu'un, je lui dis, voilà, il y a un tableau qui me plaît. Je t'en propose tant. C'est plus qu'on te proposera dans la meilleure vente aux enchères. Tu es vendeur? Il me dit non. La semaine prochaine, je reviens. J'ai dit, tu es vendeur? J'ajoute. Il me dit non. La semaine d'après, tu es vendeur? Il dit, bon, il en a assez, il me vend. La Torah, elle dit, c'est interdit parce qu'il y a marqué l'otahmod. Tu ne désireras point. L'otahmod, ça ne veut pas dire simplement désirer, j'ai envie de. C'est passer à l'acte. Obtenir ce qu'on a envie par la pression. Bon. C'est pour ça que dit la Gemara, chaque fois que tu seras ouvert l'otahmod, c'est en même temps l'otixol. Parce que c'est volé aussi. Parce que tu as obtenu son consentement par la force. Par la lassitude, par la pression. Quelle est la différence si tu lui mets un pistolet ou si tu le vrilles et qu'à la fin, il en a assez et qu'il te vende. Bon. Dans aucun code du monde, vous trouverez cette notion-là. Et je vous dis pourquoi. Parce qu'on va vous dire, on va définir la pression. Il y a pression et pression. Si c'est une pression qui est immorale, alors, on appelle ça du racket. Mais si c'est une pression qui est morale, et la pression de l'argent est tout à fait morale, il n'y a pas de raison que tu ne renchérisses pas. Tu peux passer ta vie à acheter ce que les autres possèdent. La Torah, elle vient avec une autre définition. Et pourtant, c'est le même mishpat. C'est la même façon de comprendre. La différence, elle est simple. C'est qu'un code qui vient gérer les rapports entre les personnes, le souci de ce qui a marqué « tu ne voleras point », c'est la protection de l'individu. Si quelqu'un est attiré par l'argent, je n'ai pas besoin moi de le protéger, il n'a qu'à vendre. Je ne viendrai pas dire, hein. C'est interdit de faire une offre à quelqu'un sur ce qu'il possède. Il n'est pas vendeur. Ça ne me regarde pas. Parce que la personne n'est pas menacée. La Torah, elle, lorsqu'elle a dit l'otignov, l'otixol, l'otarmod, elle n'est pas venue pour protéger la personne. Elle est venue pour te protéger, toi. En même temps, on va considérer l'intérêt des deux et on va protéger la personne. Mais la raison, c'est pas pour organiser une société. La raison, c'est l'élévation de l'homme. Donc les critères ne seront pas du tout les mêmes. Et les critères, tu ne peux pas les comprendre toi-même, parce qu'au fur et à mesure où tu t'élèveras, tu les comprendras, et à ce moment-là, ils t'ouvriront de nouveaux horizons. Donc, tu es juge de quoi? Tu es seulement juge du bon sens des choses. Mais tu ne peux pas être juge de là où on veut t'amener, puisque tu ne sais pas où on veut t'amener. Vous comprenez la différence, elle est énorme. Et là, on en vient à poser une question qui est très simple. La différence entre la Torah et tous les autres codes de loi, c'est qu'il n'y a personne qui a étudié la société et qui a décidé que la société devait avoir des lois, et voici quelles sont ces lois. Le code Napoléon, le code Amoravi, c'est une étude de la société, et plus on étudie la société avec finesse, et plus les lois sont adaptées à la société. Mais dans la Torah, je peux me poser une question. Est-ce qu'il est marqué au Tirtsar, tu ne tueras point? Parce que c'est dans la nature de l'homme, ou en tout cas c'est dans les besoins de l'homme pour vivre. Ou est-ce que la nature de l'homme ou le besoin de l'homme pour vivre, il est d'autir ça parce qu'il est marqué d'autir ça? Qu'est-ce qui est premier? La réponse, elle est évidente. Il est écrit dans le Midrash que Dieu a consulté la Torah pour construire le monde. Qu'est-ce que ça veut dire consulter la Torah? Ça veut dire que comme il était marqué dans la Torah l'Otir Tsar, moi je suis créé avec l'Otir Tsar au fond de moi. selon je ne sais pas ce que j'ai au fond de moi. Vient la Torah, elle va me donner l'idée générale, on appelle ça le Mishpat. Mais au fur et à mesure que tu vas découvrir non seulement les effets, mais les différentes halakhot et les différents modèles qui se créent là-dessus, tu vas voir qu'il y a encore une façon de comprendre, et encore une façon, et encore une façon. Ça veut dire que je suis en train, moi, d'essayer de savoir comment je suis construit. Donc, le jugement, il est très superficiel, parce que je le juge tel que je conçois maintenant, mais demain, j'aurai compris autre chose, je jugerai autre chose, encore autre chose, encore autre chose, encore autre chose. Il y a là-dedans une difficulté de Emouna qui est plus grande que dans le rock. Parce que dans le rock, ça m'est tellement bizarre et tellement étrange que j'accepte. Je donne la différence entre les époques, parce que tout dépend des modes. Le Rambam, Maïmonide, a essayé de persuader sa génération d'appliquer les règles de la kashrout, parce que les règles de la kashrout étaient saines. Il ne faut pas manger du sang, les graisses qui sont interdites. Ok, la diététique avant l'heure. Aujourd'hui, vous venez chez quelqu'un, vous lui dites, écoutez, voilà. Je vous conseille d'observer les mitzvot de la Torah qui ont trait à la cacheroute, parce que c'est bon pour la santé. Le gars, il va rigoler, il va vous dire, moi, ce que j'attends du bon Dieu, c'est pas ce que j'attends du médecin. J'attends une autre dimension. Vous pouvez pas me dire ce qu'il y a derrière. Si tout le truc, c'est simplement parce que c'est bon ou c'est mauvais pour la santé, pour ça, j'ai le médecin. Moi, j'attends de l'intervention de Dieu par la Torah autre chose. C'est-à-dire que selon les époques et selon les situations, on va attendre de la Torah des choses différentes. Ce qui fait que, même si tu vas me dire, tu sais, le corps humain est créé comme ça, il assimile mal les graisses, il assimile mal ceci, il faut faire cela, je suis sûr que je n'arriverai pas à trouver le fond par ce genre de choses-là. Donc je dis, c'est un roc, le bon Dieu a pensé pour moi, j'étais pas là le jour de la création. Si on m'avait dit qu'il fallait créer le monde comme ça, j'aurais peut-être dit autrement. Je ne suis pas juge, car il y a des choses que tu es obligé de prendre. On n'a jamais vu un homme qui se rebelle d'être obligé de respirer. Et pourtant, ou tu prends, ou tu laisses. Si quelqu'un vient et dit, moi ça ne me plaît pas, pourquoi cette obligation? Pourquoi être soumis à ça? On rigole. Ou tu prends, ou tu ne prends pas. Ça, on comprend. Mais lorsqu'on vient, on me dit, tu sais, c'est un mishpat. C'est quelque chose que tu dois comprendre. C'est quelque chose que tu peux assimiler. Et là, je ne comprends pas. C'est là que se pose le problème d'Aïmoun. Nous, on a souvent dit le sacrifice de Yitzhak. C'est quelque chose dont on mesure peu quel est le vrai problème et quel était le vrai Nissayon, la vraie épreuve. Maintenant, c'est trop long. Mais si vous regardez le verset où il y a marqué que l'ange a dit à Abraham, Al Tashler Yadra el Anar, n'étends pas ta main, ne touche pas l'enfant. Abraham Avinu a posé une question à Kadosh Baruch Hu. Il a dit, mais non, je ne comprends plus rien. Au commencement, on m'a dit, Ki be Yitzra ki kare lo chazera, ta descendance, elle va passer par Yitzra. Après, on m'a dit, va aller au Lola, il faut la mettre en sacrifice. Maintenant, on me dit, il ne faut pas le toucher. Qu'est-ce qui se passe ici? La question est très simple. Pourquoi Abraham Avinu a-t-il attendu que l'ange lui dise ne touche pas l'enfant? Avant, il avait déjà une question. Au commencement, on t'a dit, c'est pas Yitzhak que viendra ta descendance. Et après, on te dit, va aller au-delà, monte en sacrifice. C'est là qu'il fallait poser la question. Le problème de la Kéret Yitzhak, il est ici. On va demander à quelqu'un de faire quelque chose qui est contraire à tout ce qu'il conçoit. Si tu le conçois, c'est pas, il n'y a plus de la Emouna. C'est simplement que tu approuves et tu comprends. La Emouna commence là où termine l'entendement. Moi, je conçois l'otir tsar, l'otir gnov, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Je conçois d'une certaine façon. La Torah, elle vient de me dire, voilà. Tu conçois le principe parce que tu es créé selon ce principe. Mais au fond, c'est un roc. Parce qu'on aurait pu très bien créer les choses selon un principe totalement différent. Et comme tu serais adapté à ces choses-là, tu auras aussi approuvé. Alors, en quoi le fait que tu approuves, en quoi le fait que tu juges, En quoi que ça rentre dans tes critères de justice, ça a de l'importance. Ça veut dire que finalement, le Mishpat te pose des questions beaucoup plus grandes que le Chok. Parce que le Chok, je comprends que les choses me dépassent. Mais que dans les choses que je comprends, je comprenne que les choses me dépassent aussi, là, il y a un vrai problème. Comprenez ? C'est totalement différent. Moi, on me dit qu'il faut sortir d'Égypte. Bon, si on me demande comment il faut sortir d'Égypte, la seule chose que j'aurais pas imaginé, c'est qu'on me dit, tu sors dans l'Égypte, tu vas dans le désert. Et après, tu vas arriver à la mer Rouge, on va te coincer, et voilà, c'est la sortie d'Égypte. C'est difficile à comprendre. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression de comprendre l'évolution des choses, mais de se faire rouler quelque part. Je sors, je suis délivré, mais attention, coincé. Alors, si tu me dis, tu sais, la vie n'est pas possible, on ne peut pas vivre dans une telle société, eh bien, il faut mourir. Bon, je comprends. Ça, c'est le choc, j'apprécie. Pourquoi ? Parce que ma croyance a plus de vie ou a plus de possibilités de vie que ma vie. Je comprends ça. On ne va pas vivre petit si on peut vivre grand. À vivre grand, on n'est pas ici. Bon, on verra bien là où on est. Ça, on comprend qu'on a un risque. Mais nous, on lui dit autre chose. On lui dit, tu vas vivre selon des notions que tu entrevois. Libéré, ça veut dire quelque chose, libéré. Et ben, t'as pas compris, tu as cru que libéré, ça voulait dire qu'on va te donner une terre, grasse, tranquille, tout va bien. Non, libéré, ça veut dire le désert. Pourquoi ? Parce que libéré, c'est de Mitzrayim. Mitzrayim veut dire, en hébreu, Mitzrayim, les entraves. Maintenant, tu vas être libre. Tu n'auras même pas besoin de te soucier de ton manger, de ta nourriture. Tu n'auras même pas besoin de te soucier de tes vêtements, tu n'en auras pas. Tu n'auras pas besoin de te soucier de là où tu vas, on va te faire tourner en rond dans le désert. C'est difficile à entrevoir. Le mot liberté, je l'ai compris. Et puis on va ajouter une notion que je ne comprends plus. Pire que ça, le Maharal de Prague vient et il dit, voilà. Finalement, moins on possède, moins on en a, moins on a de projets, moins on a d'obligations de s'entretenir et plus on est libre. C'est difficile à comprendre. Moi je vous dirais le contraire. Plus j'ai de moyens, plus j'ai de facilités et plus j'ai de choses à gérer et plus je suis libre. Dis non, c'est pas vrai. T'as pas compris. Qu'on comprenne ou qu'on comprenne pas, on dirait que les mots ont toujours un double sens. On te dit que où la délivrance ? Délivrance de quoi ? Délivrance de ce qui attache l'homme. Alors moi je vois l'attachement, c'est l'Égyptien. Mais non, l'Égyptien, il n'est rien lui. C'est pas l'Égyptien qu'il faut voir. C'est la dépendance où il t'a mis par rapport à la matière. Metsarim. Il t'a fermé, il t'a fait un homme petit. Maintenant, tu n'auras plus de problème. Pourquoi tu n'auras plus de problème ? Tu ne sauras même pas le matin ce que tu vas manger à midi. Tu n'as plus de problème. Comprenez le double sens des mots. En cela, le Mishpat, il demande à l'homme d'être droit, Yachar. On retrouve le même mot dans la Torah, à propos du prophète Bilam. Le prophète Bilam a dit ceci, « Tamut nafshi mot yesharim utei achariti kamou. » On va traduire. « Tamut nafshi, que je meure, mot yesharim, la mort des droits. » Qui sont ces droits, dit le Midrash ? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Voilà les gens droits. Je veux avoir la même mort qu'eux. « Utei achariti » et que mon âme soit kamou, comme ce peuple-là. Qu'est-ce qu'il a demandé Bilam finalement ? Il a dit, voilà, vivre, je veux vivre n'importe comment. Le n'importe comment, il va loin, puisque il avait choisi comme compagne une ânesse. Bon, tous les goûts sont dans la nature. Aval mot, mot yesharim. Les gens qui sont droits, qu'est-ce que c'est le droit ? Pourquoi droit ? En quoi le mot yachar, droit, ça exprime quelque chose. Alors, je vais vous dire. Quelqu'un peut être grand. Mais s'il n'est pas yachar, il n'est pas droit, alors sa grandeur va l'amener à la folie. Quelqu'un peut être bon. Mais s'il n'est pas yachar, sa bonté va l'amener à la bêtise. Quelqu'un peut avoir toutes les qualités du monde. Si le fond de ses qualités, c'est pas ce qu'on appelle yachar, la droiture, hein, il est fichu. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le verset « Tov veut yachar Hachem ». Tov veut yachar, qu'est-ce que ça veut dire Tov veut yachar? Si Dieu est bon, il n'a pas besoin d'être droit. Toute attitude dans la vie qui ne peut pas être accompagnée d'une droiture, et maintenant tout doucement on va pouvoir définir qu'est-ce que c'est cette droiture, le fond, c'est que c'est mauvais. Il n'y a rien qui puisse exister et que l'on puisse pousser à bout sans que ce soit complètement tordu. C'est qu'en français, on dit trop bon, trop, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'on a compris que les meilleures des choses, elles vont se retourner contre la personne. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? La seule façon qu'on a de le intellectuel, tout concept, on va même venir de morale. À partir du moment où il n'a pas une direction, il ne peut se définir que par lui-même. Et lorsqu'une chose ne peut se définir que par elle-même, elle tourne en rond. Elle ne peut pas avoir une action qui soit positive. Il faut être bon. Tout de suite, on va se poser quelles sont les limites de la bonté. Jusqu'où? Comment? De savoir le définir, on appelle ça yachar. Il faut être droit. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas seulement bon, il est aussi yachar. Il est aussi droit. Bon. Tout doucement, on va arriver à cette définition de droit. Une droite en français, la seule définition qu'on connaisse, c'est ce qui relie un point à un autre. Ça veut dire qu'il y a un point à relier. Quel est ce point à relier? J'ai une base de départ, on te dit qu'il faut être bon. Tu n'es pas bon, ça va comme ça, ça va comme ça. Tous les côtés. Non, il y a une base qui est du départ. Celle-ci, il faut la relier. On va aller plus loin encore. Toute qualité, tout concept qui n'est pas soutenu et sous-tendu par une volonté est irréalisable. D'abord, je dois savoir où je vais aller, parce que tout ça, ce ne sont que des moyens. Même l'intellect, même la logique, ça ne sont que des moyens. Mais où tu veux aller? De savoir où je veux aller, d'avoir le chemin tracé, ça s'appelle yachar. Tout le reste, ça n'est que des façons pour y arriver. Ça veut dire que lorsque moi je viens, je dis mishpat, ça y est marqué dans la Torah, il faut faire ceci, il faut faire cela, je comprends tout. Le problème de savoir où la Torah veut aller. Où est-ce que je veux aller? À partir du moment où tu veux aller quelque part, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que tu ne comprendras plus. Parce que si tu es trop bon, tu n'arriveras pas là-bas. Si tu es trop ceci, tu n'arriveras pas là-bas. Si tu es trop cela, tu n'arriveras pas là-bas. Tout concept, on va être obligé de le définir selon le point où je veux arriver. Comment est-ce que moi, je vais connaître le point où je veux arriver? Vous avez tout de suite compris que le seul point où je veux arriver, c'est le point qui relie Dieu à l'homme. Par contre, on te dit, il faut être bon, il faut être gentil, il faut être ceci, il faut être cela. Ça, ça n'est pas des façons de rallier ce point-là. C'est simplement une façon d'avoir une conduite pour y arriver. C'est pour ça que on ajoute à l'adjectif de Tov, qui en hébreu veut dire Tov, ça veut dire dans le sens de la création, Yachar, qui veut dire droit. On va aller plus loin encore. Il y a un livre qui s'appelle le Nefesh HaChaim, de Rabbi Chaim de Volozhin, où est écrit ceci. Il ne faut pas croire que lorsqu'un homme agit, du fait que l'on voit les choses bouger, il n'y a que de cette façon-là que le monde change. De la façon dont un homme pense, les choses aussi changent. Parce que même si nous vivons dans le monde de l'action, et que nous réalisons les choses par l'action, ce monde de l'action, c'est le monde que nous voyons. Mais il est géré par un monde qui n'est pas le monde de l'action. Et dans ce monde-là, qui n'est pas le monde de l'action, et qui supervise le nôtre ou qui gère le nôtre, c'est pas le plus fort qui a raison. C'est pas les concepts de l'action qui font que les choses sont vraies, c'est d'autres concepts. Maintenant, on va comprendre ce que ça veut dire Yachar. Yachar, ça veut dire ne pas se situer seulement selon les choses que je vois à travers le prisme de l'action, qui font que deux choses contradictoires peuvent très bien cohabiter, qui font que la vérité, elle n'est pas obligée de se situer dans l'évidence, alors que dans le monde qui nous gère, et on va dire que notre monde, c'est seulement la traduction du monde spirituel que Dieu a mis en place, ces choses-là, elles sont gérées par des concepts qui sont totalement différents. Ou c'est vrai, ou c'est faux. Ou c'est juste, ou c'est faux. Et là, on va voir la différence entre le Emet et le Yasha. Emet, c'est la conception des choses. Pour nous, Emet et Echad en hébreu, ce sont presque des synonymes. De même qu'il y a marqué Hachem Echad, il y a marqué Hachem Emet. En 2 minutes, vous allez comprendre pourquoi. Ce qui englobe tout et qui n'a besoin de rien pour exister, on va le définir en disant il est un. C'est comme si on disait il est tout. Quand je dis les tout, je suis obligé de dire il est vrai. Pourquoi? Parce qu'il est tout. Une partie, c'est pas vrai. Mais le tout est vrai. Vrai dans le sens, c'est comme ça que c'est. Pas vrai dans le sens, je compare. Vrai dans le sens, ça existe. Ça, c'est lorsque nous disons Hachem Emet. Mais lorsque nous disons que Tov Yachar Hachem, Yachar, ça veut dire qu'il y a un point qui est défini où je peux arriver. Ça, c'est la différence entre Emet et Yachar. Vous savez que Emet, c'est la première lettre de l'alphabet, la dernière lettre de l'alphabet et la lettre du milieu de l'alphabet. Ça veut dire que c'est le tout. Lorsque je dis Yachar, c'est pas ça du tout. Droit, ça veut dire qu'il y a un chemin pour parvenir à ce émettre-là. Tout ce qui parvient à ce émettre-là, on appellera ça Yachar. C'est ça que le prophète Bilam est venu, il a dit Tamut nafshi mot yosharim. Là où sont arrivés Abraham, Isaac et Yaakov, c'est là où arrive celui qui est Yachar. Il va droit. Lorsqu'il y a marqué ici « Meishari Maevucha », ça veut dire que là où il fallait aller, et le point qu'il fallait toucher, le peuple juif l'a touché. « Meishari Maevucha ». C'est quoi? C'est qu'on te dit « Voilà, il faut sortir ». Cette sortie-là, elle ne va rien t'apporter d'autre que le fait que tu ne sois pas entravé. Voilà ce qu'on t'a apporté. Maintenant, c'est à toi de travailler. Comment est-ce que l'homme va le ressentir? C'est qu'il va aller dans un endroit où il n'a rien. Blimetsarim, il n'a rien, il n'y a rien qui le contraint. Et là, on va voir. Si tout le contraint, c'est-à-dire que le matin à 8h, il se demande qu'est-ce qu'il va manger à midi. Si le confort lui pèse, si ce qui est difficile dans la vie, ça fait que ça le restreint, il aura perdu. Si au contraire, ça lui permet de voir que ces difficultés-là, elles n'ont rien à voir du tout avec ce qu'on attend de lui, il a gagné. Vous enlevez les entraves à quelqu'un, pour comprendre que c'est des entraves, on est obligé de le mettre dans l'autre point. Le point extrême. Tu n'as plus aucune entrave. Et tu n'as plus rien à ta disposition non plus. C'est là où tu comprendras que ce ne sont que des entraves. Tout le monde est obligé de dormir, tout le monde est obligé de manger, tout le monde est obligé de se vêtir, tout le monde est obligé. C'est une obligation, c'est les mezarim. Ça, c'est des entraves. On a voulu que le peuple juif le comprenne. Mais ça, nous on l'a compris qu'après. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on s'est dit, si on avait de la manne, ce serait plus simple. Par exemple, la Gemara dit, l'onitna Torah l'olor leman. La Torah, pour la comprendre dans sa profondeur, il faut être de ceux qui ont mangé de la manne. Pourquoi? Parce que celui qui est inquiet, celui qui ne sait pas comment va s'en sortir, il n'est pas assez libre pour assimiler la Torah parce qu'il a des entraves. Mais la manne, c'est le pire des entraves. Je ne peux pas me faire à manger. Je ne peux pas me faire une cuisse de poulet ou une omelette. Je suis obligé d'attendre que le monde le donne. C'est qu'il n'a pas compris que la cuisse de poulet et l'omelette, c'est ça l'entrave. Pour ça, il faut passer par ce chemin-là. Tu veux être sans limite. Ça, c'est ce qu'on appelle méchant. On veut amener quelqu'un à un point. À part Dieu, il n'y a personne qui peut m'amener à ces points-là. Maintenant, on comprend le sens du verset. On me dit, voilà, on va t'expliquer quelque chose qui est mishpat, très simple. Délivrance. T'as compris? Non. Tu vas dans le désert, t'auras rien à manger, rien à boire, rien à te vêtir, rien. Là, tu commenceras à comprendre. Ce qui est un mishpat normal, la délivrance. Mais si quelqu'un est un peu tordu, il va dire, mais c'est ça la délivrance. Mais vous m'avez coincé. Au moins là-bas, j'avais le poisson à midi. Parce que, à l'heure où on s'arrêtait de travailler, le capot, il m'avait le poisson. Donc, j'étais pas du tout entravé. Alors que là, je suis totalement entravé. Voilà, ce qu'on a vu, tu comprends. C'est le contraire. Le peuple juif, lorsqu'on a dit le mot Geoula, il n'a pas cherché à mettre un sens dans ce mot-là. Alors que nous, nous cherchons toujours. Chaque fois que nous voyons un mishpat, nous voyons une chose que nous comprenons, nous faisons des références à tous nos acquis pour essayer de rêver comment est-ce que doit être l'idéal. Alors tu es déçu. Lorsque Moshe et Aaron sont venus, on t'a dit Geoula. C'est un mot formidable. Qu'est-ce qu'un juif n'a pas pu mettre dans ce mot-là? Il se retrouve dans le désert. Il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire. C'était ça le vrai mot Geoula. Nous, nous devons aborder les choses de cette façon-là. Mesharim et Evoukra. Le peuple juif a toujours réussi à l'aborder. Il y a une seule exception, je vous dis tout de suite. Vous savez que nous nous disons dans le Shira Ma'alot. On dit Shira Ma'alot, Beshuv Hashem et Shivat Zion. Le jour où Dieu fera revenir les gens en Eretz Israël. Az, à ce moment-là, Aïnou que Cholmim. Mot à mot, ça veut dire, hein, comme des rêveurs. Pourquoi comme des rêveurs? On dit au nom de Rabbi Chaim de Brisk. Le pshat dans ce verset-là. On le dit tout le Shabbat, tous les Shabbatot avant de faire le Birkat Hamazon. Hayinu kecholmim. Il dit voilà. Un rêve. Tout le monde rêve. Un enfant rêve de ce qu'il sera lorsqu'il sera grand. Un adulte rêve de ce qu'il pourra avoir comme vie au lieu de la vie pourrie qu'il a. Un vieillard rêve de pouvoir recommencer une vie. Chacun rêve à ce qu'il n'a pas. Tous ces rêves-là, il n'y a jamais rien qui se réalise. Et si ça se réalise, ça n'a aucun rapport avec le rêve. Toute la vie, elle est comme ça. Chalom, c'est la fuite. Il y a un seul rêve qui est le rêve de chaque juif qui se réalisera. C'est que chaque juif dans la galoute, il a imaginé comment ça va être le jour où HaKadosh Baruch Hu ramènera le peuple juif en Eretz Israël. Comment ça va être le jour où le Mashiach va venir? Comment ça va être le jour où la délivrance elle sera définitive? Chacun a rêvé de ça. Vient le verset, il dit, Beshuva Hashem et Shiva Tzion, Aïnou Kocholmim. Le rêve de chacun va se réaliser. Parce que tout ce que tu as rêvé, ça on va te le donner. Pourquoi? Parce que ce rêve-là, ce n'est pas le rêve de celui qui veut fuir la réalité. Ce n'est pas le rêve de celui qui pense qu'il va échapper à sa condition misérable. Ce rêve-là, c'est l'espoir. Et l'espoir, chacun a le droit d'en avoir. Donc il apprend la pierre dans le verset. Chaque rêve de chaque juif, dans toute la galoute, les milliers et les milliers d'années, chaque fois qu'un juif a pensé comment ce sera, tout ce que tu as imaginé, tu verras. Hayinu kecholmim. C'est le seul rêve qui a une raison d'être. Parce que tu ne dois pas te sentir bien dans ta condition. C'est la seule dans laquelle tu ne dois pas te sentir bien. Tous les autres rêves, c'est zéro. Mais ce rêve-là, il est bon. C'est une des raisons pour laquelle la Gemara nous dit, on pose quatre questions lorsqu'un homme vient être jugé chez Dieu. La dernière question, après qu'on ait épuisé toutes les questions, la quatrième, c'est Tzipita li Yeshua. Est-ce que tu as espéré la délivrance? Qu'est-ce que ça veut dire espérer? Est-ce que tu étais content de ta condition? Est-ce qu'il ne te manquait pas quelque chose? Est-ce que tu n'espérais pas une autre vie? Si c'est simplement dans le sens que, au lieu d'être pompier, tu vas être gendarme, et au lieu d'être riche, tu vas être pauvre, au lieu de pauvre, tu vas être riche, c'est pas intéressant ça. Mais si c'est quelque chose d'autre, une autre dimension, la dimension de qu'on te dévoile vers où on va et comment on va, et quelle est l'importance de ces choses-là. Si ça tu veux, ce rêve-là, il se réalisera toujours. Le rêve de chaque juif dans ce sens-là, c'est ça qu'on lui demande, si pita le choix. Au commencement, qu'est-ce que tu as fait pendant ta vie? Mais on lui demande une autre question, enfin. Est-ce que cette vie-là, elle te satisfaisait? Ça te satisfaisait? Il te manque une dimension. Parce que le monde à venir, hein, il faut le vouloir. On ne va pas te forcer de te jeter là-dedans encore une fois. C'est encore une chose qu'il faut vouloir. Cette chose qu'il faut vouloir, est-ce que tu l'as voulu? Ça, c'est la dernière question qu'on lui pose. Ça veut dire qu'un homme doit avoir soif d'absolu. Il doit avoir soif de vérité. Il doit avoir soif de ce que l'on dit à Jean. Où est-ce qu'il est l'autre coin? Comment est-ce que je vais arriver à situer les choses? Ça, ça doit être sa soif à lui. Mais s'il est heureux avec ce qu'il a, c'est qu'il est de nouveau enfermé dans le Mitzrayim. Ça veut dire qu'il est content. Pourquoi est-ce que je vais m'en sortir? C'est très bien. On raconte une blague. Quand est-ce qu'un juif, il demande le Mashiach? Un jour, il y avait un gendre dont le beau-père lui avait promis une grande dot. Mais il lui donnait tous les ans un petit peu. Un jour, il est venu chez son beau-père, il lui a dit, beau-père, tu me donnes tout d'un coup, je veux tout. Bon, l'autre était obligé de s'exécuter, il lui a tout donné. 15 jours après, le beau-père fait faillite. Il vient chez son gendre, il dit, moi, comment est-ce que tu as compris que j'allais faire faillite? Personne n'a compris, personne ne le savait, il n'y a que toi qui as compris. Il dit, écoute, je suis venu te voir, je t'ai demandé comment ça va, tu m'as dit, ah, que le Mashiach vient. Un juif qui parle comme ça, il faut retirer ses billes tout de suite. Vous comprenez? Ça veut dire que nous, on a soif d'absolu. Lorsqu'on est tellement enchaîné dans ces mitzraïm, dans ces entraves-là, qu'on se dit, ça va quand même mieux le Mashiach. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'on comprend. Vous comprenez le problème? Nous, on croit que le Mishpat, on a compris, on gère. Un homme doit comprendre qu'il ne gère pas du tout. Qu'il y a une autre dimension. Le Mishpat, ce que tu comprends, ce qui a l'air évident, ce qui a l'air simple, en vérité, c'est 100 fois plus compliqué que ça. Commence à étudier les halakhot et voir, il y a un monde que tu vas découvrir. Alors à ce moment-là, tu as soif de voir comment ça va se passer. Ça, on appelle ça Yachar. Vers quel point tu veux aller? Il y a un point, il faut aller. Là, à la droite, c'est droit. On ne peut pas y aller comme ça, on ne peut pas y aller comme ça. Il faut se diriger vers ce point-là. Ce point-là, je vais vous dire tout de suite, ça s'appelle dans la Kabbalah Hanekuda Hayoudit, le point juif. On appelle ça le Nitzotz. dans chaque juif qui doit être soumis à l'ordre de la Torah, de par sa naissance, il y a ce besoin-là de découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière le Mishpat. Ça s'appelle la Nekouda Yehudit. Un non-juif peut aussi avoir la Nekouda Yehudit. Il a aussi besoin de ça. Et ça, c'est quelque chose qui se révèle tout doucement. Chaque fois que je pense maîtriser la situation et que je suis content de mon sort et qu'on me propose une geoula qui est d'enlever les entraves, j'ai pas besoin, je m'en sors bien. À partir de ce moment-là, je dévie de ce point, le nitzotz, l'étincelle. Cette étincelle-là, on est obligé de la préserver. Parce qu'on balance facilement dans le rêve. On balance facilement dans le fait que, puisque ça marche bien, on n'a pas besoin d'autre chose. Mais ce qui marche bien, ça ne te montre rien. Maintenant, on comprend. On a expliqué l'autre fois que ça voulait dire Ahava. Je Ahava. Tu aimes Dieu. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et on ne voit pas pourquoi on aurait des relations d'amour avec Dieu. On a dit Ahava, ça veut dire tenir compte d'eux. C'est qu'un homme doit être omnibulé par le Emet. Il doit être omnibulé par le tout. Tout ce qui nous cache, ça ne doit pas empêcher qu'on soit omnibulé par ça. C'est ce qui a marqué ici. Moshreni acharecha narutz en cours. Imaginez-vous aujourd'hui, on viendra en dire voilà, la délivrance est arrivée. Il faut... Chacun vous dira d'abord, c'est pas les heures de bureau, on n'a pas terminé. Chacun trouvera de quoi se contenter de ce qu'il a. Pourquoi ? Parce que cette quête de quelque chose qui est absolu, il la masque. Mais il faut savoir une autre chose. Et ça, c'est très important. C'est que cette quête-là de l'absolu, elle n'existe pas seulement vis-à-vis de Dieu, elle existe aussi vis-à-vis de l'homme. Nous, on croit que la Torah est faite de deux parties. Il y a les mitzvot vis-à-vis de Dieu et les mitzvot vis-à-vis de l'homme. À Soukha, je vais dans la Soukha, je prends l'homme, c'est vis-à-vis du bon Dieu. Je fais la tzedaka, je rends service, je mens pas, je tue pas, je vole pas, c'est vis-à-vis des hommes. Mais tout le monde sait que c'est pas comme ça. Parce que si Dieu a mis les hommes ensemble, c'est pour une raison. Donc le vis-à-vis de l'homme, c'est vis-à-vis de Dieu. Et c'est la seule façon qu'on a, nous, de respecter l'autre. C'est pour ça que Hillel a dit à celui qui voulait se convertir, ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est ça la quintessence de la Torah. C'est-à-dire quoi ? Il est impossible que tu cohabites l'autre, avec l'autre si ça n'est pas sous-tendu par un projet, ça n'est pas sous-tendu par une volonté. C'est quoi cette volonté ? C'est la quête de l'absolu. C'est qu'à travers l'autre, je peux aussi trouver quelque chose qui est absolu. Si quelqu'un ne sait pas aimer les hommes, il ne sait pas vouloir leur donner, il ne sait pas trouver ce qu'il y a d'absolu dans l'autre, il ne pourra jamais le trouver chez le bon Dieu. Parce que ça veut dire qu'il n'est pas ouvert à l'autre, qu'il attend qu'on lui ramène les choses. Donc on ne peut pas lui demander de si pita, tu attends. Mais moi j'attends pas vers quelque chose, j'attends quelque chose vers moi. Alors on est bouché. Ça veut dire que tout ce que l'autre existe pour nous, c'est pour qu'on ait une petite idée que le vrai autre, c'est Dieu, il existe aussi. Si j'ai besoin de l'autre, c'est pour que je puisse établir une relation de Emet avec un autre. Et c'est de cette façon-là que je peux arriver à la relation de Emet avec Dieu. Mais si je suis complètement centralisé vers ce dont j'ai besoin et enfermé dans mes besoins à moi, alors ni l'autre ni Dieu n'existe. Attention, l'autre peut exister à mon avantage. Un patron a toujours besoin d'employés, et un employé a toujours besoin d'un patron. On ne parle pas de ça. On parle du Emet, de savoir donner quelque chose à l'autre, et de savoir que si c'est pas moi qui lui donne, il n'aura pas, et que ça peut être quelque chose qui est absolu. Ça fait qu'on reconnaisse Dieu à travers l'homme. Celui qui ne sait pas respecter un homme, il ne sait pas respecter Dieu. Celui qui ne sait pas aimer un homme, il ne sait pas aimer Dieu. C'est pour ça qu'on dit dans le Birkat Amazon. Venim tzachem, v'sechel tov, v'ene Elohim, v'adam. Un homme doit trouver grâce aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Pourquoi tu les mets les hommes là-dedans? Parce que la Gemara dit, la façon dont les autres t'apprécient, c'est à peu près la façon dont le bon Dieu t'apprécie. Ne crois pas qu'il y ait une différence. Comme tu es estimé et jugé par les autres, c'est comme ça que le bon Dieu te juge. La Gemara dit, si quelqu'un veut savoir comment le bon Dieu le regarde, qu'il regarde comment les autres le regardent. Exactement la même chose. Les autres ne sont pas tous tordus. Comme il te regarde, comme ça le bon Dieu te regarde. Parce que le rapport à l'autre, la fin du rapport à l'autre, c'est le rapport à Dieu. C'est pas le rapport à l'autre. Parce que l'autre n'existe pas, il a été créé en même temps que toi. Donc lui, c'est pas la finalité. Dans lui, il existe une autre finalité. Donc c'est pas par hasard qu'on trouvera dans le Shir HaShirim que le rapport avec Dieu, il va être quelquefois décrit comme le rapport avec l'homme. Parce que c'est là-dedans qu'on trouve le rapport avec l'autre. Et l'autre, c'est autant Dieu que l'homme. Ce rapport avec l'autre, c'est ce que nous on appelle Yachar. Il faut un point qui est différent du tien. Il y a un autre point, il y a une ligne. Suis la ligne. Ça, c'est ce qu'on appelle Yachar. Cette volonté d'avoir ce rapport-là, c'est ça qui va faire que tous nos concepts ont un sens. On a dit tu es bon et tu n'es pas Yachar, ça n'a aucun intérêt. Parce que quelquefois le mauvais qui n'est pas Yachar, il arrive au même résultat que le bon qui n'est pas Yachar. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le point de ralliement, on doit savoir vers où on tend. À ce moment-là, on peut utiliser les concepts, on va utiliser les mishpatim, on va utiliser ce qu'on comprend, et le mettre au service de cette yashrut, des choses qu'il comprend. Maintenant, on va essayer de continuer le verset. Heviani Amelech Hadarav. On a déjà pratiquement expliqué dans le verset. Heviani Imame Amelech, le roi Hadarav. Le mot cheder en hébreu, ça veut dire mot choder. Choder veut dire pénétrer, rentrer. Une chambre. À l'intérieur, c'est là où on rentre. Khader, Khader, l'Akhdor. Alors, maintenant on va comprendre. Dieu nous a annoncé une Geoula. On a dit Moshe Rabbeinu Haretsa, il nous a dit de sortir, on a couru. Qu'est-ce qu'il a fait? Eviani Amelech Hadarav. Il nous a dévoilé où est le point vers lequel il faut se rallier. On a dit ce point-là, il est et à l'intérieur du Chok et à l'intérieur du Mishpat. Pourquoi ça s'appelle Cheder? Il est écrit dans le Midrash ici sur Sirachirim, une notion qu'on doit comprendre. C'est que Cheder, c'est pas seulement l'intérieur. C'est un intérieur qui est séparé d'un autre intérieur. Khadarab au pluriel. Il est écrit là ceci. Kol Talmid Chacham Yeshbo Khadre Khadam. Tout celui qui étudie la Torah, tout celui qui s'intéresse à la Torah, il a en lui un cheder. C'est quoi? C'est que chacun a un angle qui peut être différent pour pouvoir comprendre les choses et aborder les choses. Vous donner un exemple. Il y a 613 mitzvot. Ces 613, on peut les résumer en 50 principes. On peut les résumer en 30 principes. On peut les résumer en 20 principes. Chacun peut les voir avec un principe qui est le sien. Parce que le concept de deux personnes, il n'est jamais le même. Et la façon dont chacun aborde, elle est honorable. Et Viani Amelech Hadarav, ça veut dire qu'on m'a donné la faculté à moi de comprendre les choses. Et comme je n'ai pas la même expérience que l'autre, comme je n'ai pas une référence aux acquis qui est la même, les mêmes mots vont avoir une résonance différente chez l'un et chez l'autre. Alors on dit, mais alors où est la vérité? La vérité, c'est que c'est la même résonance en d'autres concepts. On dit, mais alors c'est quoi cette résonance? C'est loin. Ça mène au même point. Que ce soit comme ça. Que ce soit comme ça. Par l'intermédiaire de tel sentiment, de tel concept, de telle logique, ça sera toujours la même chose. Il est impossible que deux personnes écoutent la même chose et comprennent la même chose. Donc là aussi, même dans l'intellect, on est obligé d'avoir un point de ralliement, il faut être yachar. Il faut être yachar. Si après un cours, vous allez demander de quoi il a parlé, chacun vous dira qu'il a parlé d'autre chose. Et c'est vrai. Parce que la résonance des mots, on ne peut pas la contrôler. On peut même trouver dans un discours des choses que celui qui a conçu le discours n'avait pas envisagé. Le problème de savoir, c'est qu'au fond de quoi on a parlé, ça on est obligé de le savoir. Le fond, il est très simple. C'est que l'homme a été créé pour percevoir certaines choses, il doit arriver à ça. Le point de ralliement, il doit être là. De quelle façon tu l'abordes? C'est pas très important. Est-ce qu'on l'a dit comme ça ou on l'a dit comme ça? En fin de compte, c'est pas important. Un jour, j'étais en Eretz Israël, dans une grande synagogue. C'était à Sukkot. Il y avait là-bas peut-être 2000 personnes. Chacun avait un loulav, chacun avait un étrog. Et je me suis dit, c'est bizarre. Il n'y a pas deux loulavim qui sont les mêmes. Là, il y a un grand, l'autre il a un petit, l'autre il a un gros, l'autre il a un mec, l'autre il a un comme ça, il a un comme ça. Si vous regardez deux étrogim, il n'y en a pas deux qui sont les mêmes. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une fois la même chose? Voilà, quelque chose où on trouve quelque part que c'est la même chose pour tout le monde. Pourquoi est-ce que le bon Dieu a fait les choses que tu ne peux pas répéter le même geste deux fois sans qu'il y ait une différence? On va dire pire que ça. Il y a marqué que celui qui voit une multitude du peuple juif, il doit faire une bracha. Quelle est la bracha? Baruch Chacham Arazim. Dieu, il est la source de Chacham Arazim, ça veut dire de celui qui connaît le secret. Que Shem Shepartzufeim Enam Shavim, de même que leurs visages sont différents, Kardeotem Enam Shavot, de même leurs pensées ne sont pas les mêmes. C'est quoi cette bracha? C'est qu'il n'y en a pas un qui pense la même chose. Il n'y en a pas un qui a la même vie, qui a la même référence. Et pourtant, ils arrivent à s'entendre. Tous ensemble, ils s'appellent le peuple juif. Et pourtant, je vais chez l'un, je lui demandais ça, il va dire le contraire de l'autre. Et là, je lui demandais ça, il va dire le contraire de l'autre. En quoi c'est la même chose? En quoi ce loulav, c'est la même chose que celui-ci? En quoi ce loulav, c'est la même chose que celui-ci? Là-bas, c'est dans la mitzvah. La mitzvah, elle est la même. Ici, dans le peuple juif, qu'est-ce qui est la même? C'est cette yachroute-là. Mais ça, yachad arab. C'est pas unique. La démarche, elle n'est pas unique. La compréhension, elle n'est pas unique. Il y en a un qui mettra l'accent sur une mitzvah telle et telle, l'autre qui mettra l'accent sur une autre mitzvah. L'un, les choses seront plus importantes d'un côté, les autres sont plus de l'autre côté. Mais ça reste yachar, ça peut rester droit. Tu dis, mais ils font pas la même chose. L'un, il fait comme ça, l'autre, il fait comme ça. Quand même, ça peut rester droit. Mais il faut que le point de ralliement, il soit unique. À partir du moment où on a réalisé ça, toutes les différences, au contraire, au lieu que ce soit quelque chose de péjoratif, c'est quelque chose, au contraire, qui donne toute la mesure de tous les types de relations qui peuvent exister entre un homme et Dieu. Ça, c'est ce qui est marqué ici. Il y a une seule loi pour tout le monde. La compréhension de cette loi, puisqu'elle s'adresse à l'homme, Si vous allez dans le code civil, il y a deux compréhensions d'une loi, c'est qu'il y a une faute dans la loi. On va l'amender. Parce qu'il y a deux compréhensions. C'est qu'il y a une finesse qui n'a pas été indiquée. On va l'amender. La Torah, c'est le contraire. Plus il y a de finesse et plus il y a de compréhension, et mieux elle se définit. C'est la raison pour laquelle les choses, elles sont toujours si compliquées. Pour les Juifs, on leur demande toujours, pourquoi tout est toujours tellement compliqué chez vous ? Donne un exemple. Vous allez dans un mariage. Chez les autres, les gens s'amusent. Chez les Juifs, on parle de la joie. On fait des discours sur la simcha. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ? Parce que tout le monde tend vers la même chose. Alors on est obligé d'aller finir. On est obligé de voir ce qu'on peut repérer, ce qu'on peut comprendre dans les concepts, bien que ce soit après différent chez chacun, mais on est obligé d'avoir ce tronc commun qui fait que... Alors c'est quoi la simcha ? Ça, c'est ce qui est marqué ici après. Nagila venis mechabar. Sachez, par l'unité, la simcha est impossible. Si on demande à tout le monde d'avoir la même attitude, le même sourire, au même endroit, au même moment, il n'y a pas de simcha. On va essayer d'expliquer pourquoi. Il est marqué dans le verset. Nagila venis mechabar. Nagila, gil, c'est un des langages de joie. C'est qu'il y a 10 langages de loi dans la Torah. Un de ces langages-là, maintenant on ne va pas parler des 10, on va parler de 2, c'est Gila et Simcha. La différence entre Gila et Simcha, elle est simple. C'est que Gila, c'est la joie momentanée de celui qui a compris quelque chose. Quelqu'un a un problème ardu. À un moment, au moment où il va résoudre ce problème-là, ça s'appelle Gila. C'est pour ça que ça va plus dans le sens de quelque chose qui est éphémère que dans la continuité. Ça vous verrez jamais Gila après Simcha. Simcha, c'est dans la continuité des choses. Quelqu'un est content pas de ce qu'il a trouvé, de ce qu'il continue à goûter. Ça, c'est la différence entre les deux. Gila, c'est le moment où quelqu'un trouve quelque chose. Le moment où quelqu'un est vis-à-vis de l'extérieur, il a réceptionné quelque chose qui le remplit de Gila. Après, c'est la simcha. Si ça s'arrête, il n'y aura pas de simcha. Les deux choses, elles doivent exister dans le temps. On m'amène quelque chose qui est très diversifié, qui est très... Alors, j'ai une gila, ça veut dire quoi ? J'ai vu qu'il y a quelque chose à prendre. Mais après, pour que je me sente de simcha, ça veut dire que je puisse faire les choses en étant heureux de les faire et pas en les supportant. Pas en étant de nouveau dans les limites. Ça s'appelle la simcha. Le fait qu'en hébreu, il y ait 22 lettres, et que les choses, elles s'expriment par la parole, c'est ça qui permet la simcha. C'est ça qui est marqué bar. Prenez les deux mots bar, les deux lettres de bar, c'est les lettres kafbet, 22. C'est ça que le Midrash dit, venis le chabba. On est heureux dans toi, c'est quoi toi ? Il dit be kafbet, otiot shibetoratra. Des 22 lettres de la Torah. Pourquoi maintenant on prend le 22 ? Parce que vous savez que chaque lettre, elle signifie quelque chose. Chaque terme, on doit pouvoir le triturer de tous les côtés pour qu'il signifie quelque chose d'autre et qu'on puisse en avoir une autre résonance. Ça, ça amène à Simcha. Tu m'amènes vers l'Arsina Sinaï, tu dis, voilà, j'ai trouvé la solution à tes problèmes, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà comment il faut centrer la vie, Gila. Et après, il faut que je m'en sorte. Venismra bar. Le kavbet bar 22. Kavbet otiot, les 22 lettres chez Betorata, avec lesquelles la Torah est écrite. C'est ce qui a marqué après. Maintenant voilà. Nazkira, nous mentionnerons, nous nous rappellerons. Dodecha, tes bienfaits. C'est quoi les bienfaits ? Le fait que tu nous as sorti d'Égypte et que tu nous as donné la Torah. Ni Yayin. Yayin, en hébreu, Le 20, la valeur numérique, c'est 70. C'est ce qui permet à l'homme de se trouver dans un état qui le libère. Sauf que le yayin, il est éphémère. C'est pour ça qu'en hébreu, vous savez que le mot sod, il est toujours assimilé au mot yayin. Parce que si vous prenez le mot sod, la valeur numérique c'est 70. Yayin, la valeur numérique c'est 70. C'est ça qu'on dit nirnas yayin, rentre le vin, zotse sod. Nazkira dodecha yayin. Chaque fois qu'on parle de yayin, c'est ce qui permet à l'homme de trouver le fond des choses. Le vin, ce n'est pas toujours mauvais. Le fond des choses, ce qu'on appelle le sod dans l'hébreu, le secret, on peut croire que c'est des notions ésotériques. Non. Le secret, c'est ce que je perçois moi d'un enseignement et que j'arrive à faire moi. Ça, c'est le secret qui est derrière. J'arriverai peut-être pas à l'expliquer à l'autre. J'arriverai peut-être pas à faire comprendre à l'autre pourquoi chez moi ça. Ça, c'est secret. Ça qui a marqué, chacun il a ses chambres. Chacun a sa façon de concevoir. Je peux communiquer, mais la communication elle est assez grossière. Parce que je vais véhiculer des choses qui vont évoquer tout à fait autre chose chez l'autre. On appelle ça le sod. Ce que tu véhicules à l'intérieur, c'est le sod. La Torah, elle est bourrée de sod. Je donne un exemple. Il est écrit dans la Gemara dans Psachim que Malbim Penechavero Barabim, celui qui fait honte à l'autre en public, s'est assimilé au meurtre. C'est dans le Tirzah. Bon. Malbim Penechavero, notamment, ça veut dire lui retirer le sang du visage. Quelqu'un y devient blanc. Je me suis souvent aperçu qu'il y en a qui deviennent rouges. Bon. L'expression, c'est devenir blanc. Ça veut dire que tu es. On peut enlever la vie à quelqu'un. Et on peut l'enlever définitivement. Mais on peut aussi lui enlever un instant. Un instant dont tu ne vois plus se rappeler. Un instant qui doit effacer absolument de sa mémoire. Sinon, il va regoûter à chaque instant ce goût qui lui est insupportable. On lui aussi enlevé un instant. On n'a pas enlevé tout, on a enlevé une partie. Mais le tirtsar, on ne sait pas ce que ça veut dire enlever tout. Tu es un vieillard de 104 ans, c'est la même chose que tu es un jeune homme de 22 ans. Et pourtant, on ne sait pas ce qu'on a enlevé à l'un et ce qu'on voit à l'autre. On ne sait jamais. Qui me dit que celui que j'ai tué ne va pas mourir le lendemain? Donc c'est pas dans la quantité. Donc on peut imaginer qu'on peut tuer au milieu de la vie aussi. Chacun a des blancs dans la vie. Il y a des choses qu'il n'a pas envie de prendre comme référence. Il y a des moments, il ne voudrait pas que ça lui appartienne. Mais si c'est moi qui lui ai pris, ça s'appelle au tir de ça. Ne pas tuer. À la fin, on va s'habituer à cette idée-là. Que le mot tuer, ça n'est pas le cadavre, pas le cadavre. Tuer, ça veut dire autre chose. Ça veut dire enlever la vie. Tu as enlevé le milieu, tu as enlevé la fin. Il n'y a pas une grande différence. Ça se remarque plus quand tu as enlevé la fin. Mais on peut tuer plus quelqu'un en lui enlevant le milieu qu'en lui enlevant la fin. Pourquoi? Parce qu'en enlevant le milieu, on peut lui pourrir tout le reste. Alors il lui sera quoi la fin? Ça, tout le monde le comprend. En hébreu, le mot tsalach, tsaruach, ça veut dire blanc. Tsurucha kachelet, ça veut dire morotseach. Les cadavres sont blancs. Blanc, ça veut dire qu'il n'a pas de vie. Quand on veut dire une nappe blanche, on dit une nappe tuée. C'est pas péjoratif. C'est dans le sens de la description des choses. C'est-à-dire que lorsque j'évoque le mot Rotzeach, le mot Retzach, le mot Tzoreach qui est le même mot avec lettre inversée, je dois penser à d'infinis concepts. C'est ce qu'on appelle les Chadarim. Ça, ça procure de la Simcha à quelqu'un. Nagila venismcha bar. Pourquoi? Nazkira dodecha miyayin. Parce que, à partir du moment où la Torah a été donnée, j'ai un potentiel de référence qui me donne un tellement grand éventail de données que ça c'est assimilé au yayin. Ça c'est le sol. Et plus je réfléchis, et plus je regardais à la route comment elles sont construites et comment elles sont faites, et plus j'arriverai à trouver des constructions et des. Tous les concepts, on va pouvoir les définir. C'est ça le but de l'étude de la Torah. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un est venu me demander est-ce qu'il existe une notion halakhique de demi-juif ? Ça existe. On peut être un demi-juif. C'est intéressant. Ça pose le problème de savoir alors, qu'est-ce que c'est qu'un juif ? Parce que si déjà le demi existe, et puis est-ce que c'est un demi dans le sens de la longueur, de la largeur ? C'est quoi le demi ? C'est-à-dire qu'il y a des lois qui s'appliquent, qui doivent s'appliquer par même temps. Ça peut exister. Tout peut exister. C'est à moi de le définir, à moi de le comprendre. Il n'existe aucun concept qui n'a pas son sol à l'intérieur. C'est ce qui est marqué ici. Nazkira dodecha miyayin. C'est maintenant que vous avez la fin du verset. Mesharim aïvokon. Tout ça, c'est possible à une seule condition. On peut arriver à un certain point. Si je ne pose pas ce point-là, alors tout est dénué de sens. Pourquoi? Parce que tout ça, ce sont des concepts pour arriver à une seule chose. Quelle est la relation qui existe entre moi et Dieu? Voilà. Entre moi et les hommes, on a dit que c'est la même chose. Finalement, c'est la même chose. C'est entre moi et l'autre. Ça, c'est le but des choses. Plus on arrive à définir de concepts, plus on a de relations. Plus on arrive à définir de choses d'une façon fine. Ça qu'en hébreu, vous verrez toujours que le mot zochut, qui veut dire le mérite, c'est le mot zakut. Zach, ça veut dire fin. On n'a pas de mérite, on a une finesse. Il y a des gens qui héritent d'une certaine finesse. On dit ça qu'ils ont le srout. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin d'étudier parce que on leur a apporté. Ils ont eu la chance de l'avoir dans le berceau. On appelle ça du srout, le srout avot, le srout. Srout, ça veut dire une finesse. Le peuple juif, il porte en lui le srout avot. Il y a une finesse que l'histoire du peuple juif a donné au peuple juif qui fait que les mots ne doivent pas dire la même chose, les concepts ne doivent pas être les mêmes. La halakha doit être comprise de telle façon qu'il y ait tellement de multiples facettes et de multiples possibilités qu'on puisse dégager ce qui est à l'intérieur. Moi, je crois que j'ai déjà trop parlé. Donc, vous avez sûrement des questions à poser, allez-y. Non. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir.